Voilà, vous êtes à l'écoute de Radio Canut sur le 102 MHz en FM et en stéréo et nous sommes en direct du bar de l'autre côté du pont qui se trouve cours Gambetta vers la fosse aux ours si je me trompe pas. Donc on va faire un Canut Info comme d'habitude qui durera un petit peu moins longtemps puisqu'il durera 45 minutes. On va faire donc le tour de l'actualité, on va commencer par l'actualité internationale pour vous dire un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui que certains médias ont dit et ou pas dit, vous allez voir. On commence tout de suite par le conflit israélo-palestinien, puisque aujourd'hui nous avons une annonce officielle des fractions armées palestiniennes qui réaffirment leur engagement en faveur de la trêve avec Israël. Alors c'est un message qui a été transmis directement à Israël par un médiateur égyptien, puisqu'on est dans des phases de négociation, de tentatives de négociation de paix avec Ehud Olmert, entre Ehud Olmert et Mahmoud Abbas, sauf que ce même jour, deux roquettes ont quand même été tirées de la bande de Gaza sur Israël. Donc cette trêve qui est annoncée officielle n'est jamais vraiment une trêve. En tout cas, on en est là aujourd'hui. Pour rappeler quand même que tous les jours en Palestine, des citoyens sont arrêtés et enlevés par l'armée israélienne. Aujourd'hui, c'est 7 Palestiniens qui ont été arrêtés, enlevés par l'armée israélienne. Il y en a un, c'était dans le village de Balata. Il y en a 5, c'était dans le village de Balata. Donc en Cisjordanie, et d'autres c'était dans un camp de réfugiés Al-Zaon. Donc ces 7 personnes ont été emmenées dans un lieu inconnu. Et puis hier, 6 autres Palestiniens ont à leur tour été arrêtés et enlevés donc par l'armée israélienne et conduits sûrement en prison en Palestine. Il faut savoir qu'il y a toujours un soldat israélien prisonnier de certaines fractions palestiniennes et il y a toujours des milliers de Palestiniens, plusieurs milliers de Palestiniens prisonniers de l'armée israélienne. Donc voilà, la situation reste inégale, mais les pourparlers de paix n'avancent pas pour autant, malgré ces petites tentatives. On change de continent et on fête aujourd'hui deux anniversaires, on va dire, puisque nous sommes le 26 avril. Le 26 avril, il y a eu Guernica, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les avions nazis alliés au colonel Franco, au général Franco, colonel, je ne sais plus. Et donc, ils ont bombardé cette ville et tout détruit. Et c'est aussi un autre anniversaire qui a fait encore plus de victimes et qui continue de faire des victimes. C'est l'anniversaire de Tchernobyl, puisque le 26 avril 1986, la centrale, le réacteur numéro 4, très exactement, de la centrale a explosé. Ça a entraîné l'évacuation de 350 000 habitants. Il y a environ encore aujourd'hui 5 millions de personnes qui vivent dans des zones contaminées, donc en Ukraine, en Bélarus et en Russie. Et on fête ce triste anniversaire et Greenpeace en a profité pour s'incruster sur le chantier de construction du nouveau réacteur nucléaire qui s'appelle l'EPR à Flamanville. Donc ils étaient pas beaucoup, ils étaient une vingtaine, ils sont arrivés quand même à bloquer totalement le chantier de construction pour demander au candidat de la présidentielle de se positionner contre le réacteur EPR. Alors le jeu de Greenpeace n'est pas tout à fait compréhensible dans ce cadre-là, puisque d'ores et déjà Nicolas Sarkozy est pour et le nucléaire et ce nouveau réacteur, puisque c'est son gouvernement qui a fait paraître le décret le 11 avril autorisant la construction du réacteur. D'ailleurs, vous pourrez noter que le lieu et la construction avaient déjà commencé avant l'apparition du décret, c'est dire la légalité dans laquelle se passe toujours le nucléaire en France. Donc voilà, quant à l'autre candidate que vous connaissez tous, elle n'est pas beaucoup moins nucléorophile que Nicolas Sarkozy, puisque le PS s'est toujours prononcé pour le nucléaire. Et dans la campagne, ils ont juste annoncé qu'il faudrait reparler de l'EPR si jamais elle était élue. Mais ils ne remettent naturellement pas en cause la production d'énergie par l'atome. Donc voilà, alors ça c'était ce matin à 6h, hein, parce qu'il faut y aller tôt si on veut empêcher les ouvriers d'arriver. Entre-temps, les forces de police sont naturellement intervenues, comme à leurs habitudes, et ils sont arrivés à arrêter au moins 16 militants de Greenpeace, qui s'étaient enchaînés à deux camions. C'est ceux qui étaient en fait à l'entrée du chantier, ceux qui étaient montés sur les grues sont pour l'instant difficilement accessibles, en tout cas sans mettre en danger leur sécurité, donc les militaires de la gendarmerie n'interviennent pas. Par contre, ce qu'on peut noter quand même de positif, c'est que ça a tellement été médiatisé que l'arrestation de ces 16 personnes a duré que quelques heures. Ils ont très vite été relâchés et qu'il n'y aura a priori pas de poursuite engagée contre eux. Donc voilà. Ensuite, toujours lié au nucléaire, il y a une petite note du réseau Sortir du nucléaire. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réseau qui regroupe plusieurs centaines d'associations qui se bat contre le nucléaire civil et militaire. Et ils demandent, puisque c'est en ce moment, on demande beaucoup de choses aux candidats, en tout cas une partie de la population demande des choses aux candidats à la présidentielle, ils demandent à Nicolas Sarkozy de s'expliquer sur Tchernobyl. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que fait Sarkozy avec Tchernobyl? Est-ce que c'est lui qui a fait péter la centrale? Alors, on a une info exclusive au Canu Info, c'est pas Nicolas Sarkozy qui a fait sauter la centrale de Tchernobyl. Mais par contre, c'est Nicolas Sarkozy qui était responsable en 1987, c'est-à-dire quelques mois après la catastrophe, de la lutte contre les risques chimiques et radiologiques au ministère de l'Intérieur. Donc c'est lui qui avait en charge le dossier d'étudier la contamination par le nuage radioactif, la contamination en France. Et bien il n'a rien fait. Donc le réseau Sortir du nucléaire lui demande de se positionner et de donner, d'expliquer pourquoi à l'époque la France, dont avec comme responsable Nicolas Sarkozy en tant que ministère de l'Intérieur, il n'a rien fait. Il a même manœuvré, a priori, en tout cas c'est ce qui s'est passé au niveau européen, pour empêcher l'élimination des productions alimentaires contaminées, puisque certains écolos demandaient que toutes les productions de l'agriculture qui étaient contaminées ne soient pas mises sur le marché. Et il y a eu un lobby important de différents pays, et ces produits radioactifs ont finalement été mis sur le marché, puisque vous savez tous, vous avez peut-être à l'époque mangé de la salade qui avait un petit goût d'uranium. Alors le goût, on s'en rend pas compte, mais les maladies arrivent bien sûr juste après. Donc voilà ce qui est demandé aujourd'hui par le réseau Sortir du nucléaire. On va rester dans le nucléaire, hein, je crois qu'il y a beaucoup d'infos aujourd'hui. C'est une info qui nous vient de Belgique. Vous savez qu'en Europe, il y a quand même deux pays qui se détachent des autres au niveau production d'énergie électrique. C'est la France et la Belgique qui sont les pays les plus nucléarisés du continent. Là-bas, ils ont un organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, ça s'appelle comme ça. On a l'équivalent en France. Et il y a un rapport secret qui est paru dans la presse belge aujourd'hui qui explique que, a priori, l'électricien qui gère le nucléaire, les centrales nucléaires qui s'appelle Electrabel, n'a pas mis beaucoup de côté pour le démantèlement des centrales nucléaires. Et donc, il y a un mini scandale qui apparaît en Belgique autour de tout ça. Le rapport démontre aussi que l'électricien Electrabel, à travers sa filiale Synatom, ne prend pas vraiment en charge encore le stockage sur le long terme des déchets radioactifs. Donc ça rappelle simplement cette affaire, les différentes affaires qu'on a eues en France, notamment sur effectivement le fait qu'EDF n'utilise pas, ne met pas assez de côté non plus pour d'argent pour démanteler les centrales, puisqu'il faudra le faire d'ici une dizaine d'années. Donc voilà, et puis la France n'a pas réglé non plus le problème des déchets, puisque il faut quand même le dire devant tout le monde, c'est que le problème n'a pas trouvé pour l'instant de solution. Donc voilà pour la partie nucléaire. Ça va être à peu près tout pour la partie internationale aujourd'hui. On va beaucoup plus développer la partie nationale. On va faire une pause de 46 secondes juste pour rappeler ce qu'on fait des gouvernements à Radio Canu. The Constitution burn. Wanna watch the White House overturn. Wanna witness some blue blood bleed red. Wanna come and lead the KKK. Wanna pull and shoot the NRA. Yeah, yeah, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government and men. Murder the government. Voilà, Murder the Government. Donc on va revenir à l'actualité française avec une occupation intéressante qui a commencé hier, si ma mémoire est bonne, puisque des intermittents du spectacle et des membres d'associations de collectifs de chômeurs, notamment le collectif AC, ont occupé l'UNEDIC à Paris, le siège de l'UNEDIC. Donc le siège de l'UNEDIC, il faut savoir que c'est un très beau bâtiment, une espèce de bunker payé par l'argent des cotisations de chômage naturellement, et donc ces militants sont montés sur le toit et bloquent depuis tout ce qui se passe au niveau de l'UNEDIC. L'idée c'est de déclarer de dénoncer les réformes de l'assurance chômage, notamment la dernière réforme des intermittents. Vous vous rappelez peut-être de l'été, il y a trois ans, où les intermittents avaient fait beaucoup d'actions pour essayer de sauver leur régime. Leur régime était tombé en partie, en tout cas avait été réformé, mais il y avait eu une petite clause qui avait sauvé une partie des intermittents. Et là, il y a quelques semaines, un nouveau régime a été à nouveau signé par le MEDEF et les syndicats traîtres que vous connaissez certainement. Et donc le statut des intermittents est donc à nouveau réduit. Et donc on devrait voir la disparition encore de plusieurs dizaines de milliers d'intermittents dans l'année qui vienne. On sait de toute façon que l'objectif final, ça serait de quasi supprimer le statut. Et c'est en bonne passe en tout cas. Donc c'est contre ça que ces militants se sont accaparer, on va dire, le toit de l'UNEDIC. Alors, il faut imaginer un petit peu les choses. C'est que les forces de police sont intervenues tout de suite. Pour l'instant, ils n'ont pas délogé. En tout cas, à 18h30 tout à l'heure, quand je suis parti, ils n'avaient pas encore délogé ces militants. Mais par contre, ils ont déjà arrêté une personne qui s'appelle Marc, qui est un travailleur très précaire et qui milite dans le collectif AC. Lui, il arrivait par le bas et donc ils l'ont arrêté là. Et forcément, quand on se fait arrêter par la police, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il est donc poursuivi pour outrage et rébellion. C'est la magie un petit peu de la police, des états sécuritaires, des différents gouvernements sécuritaires, hein, le gouvernement Jospin et puis le gouvernement Sarkozy, de Villepin, etc. depuis. Donc voilà, donc il passe en comparution immédiate demain. Mais bon, en tout cas, les militants tiennent toujours le siège de l'UNEDIC à Paris, donc on leur souhaite bien du courage. Voilà, puis dans la suite des infos syndicales, tout à l'heure, d'ici une petite demi-heure, il y aura une émission qui va parler que de syndicats, que de lutte sociale. Mais on peut quand même donner une info, c'est que le 4 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine, il y a une grève qui s'annonce à la FNAC. Alors la FNAC, vous avez tous en tête ce que c'est, hein, c'est un magasin qui vend de la culture, qui autrefois était assez respectable, notamment au niveau pratique sociale au sein du magasin, puisque les salariés étaient quand même plutôt protégés, qu'il y avait pas mal d'avantages. Il faut savoir que, notamment depuis le rachat par M. Pinault, il y a beaucoup d'attaques sur les acquis sociaux au sein de la FNAC, et notamment il y a une grosse vague de licenciements qui s'annonce, 427 d'après les chiffres que donnent les syndicats. Donc il y a une mobilisation et les magasins, certains magasins, peut-être tous, devraient se mettre en grève le 4 mai. Donc voilà, le 4 mai, si vous avez de la musique ou des livres à acheter, vous choisissez un autre magasin que la FNAC, parce que même si ça ouvre, il faut soutenir ces gens qui se battent pour que le magasin ressemble à ce qui ressemblait avant. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait avant, mais ils ont l'air d'y tenir, donc en tout cas voilà. Ensuite, toujours dans le social, alors que mon camarade du Canu Info est arrivé, donc il va pouvoir prendre la parole d'ici 2 minutes, même pas, comme ça me laissera respirer, parce que c'est pas facile de faire une émission en public, c'est une première. On va parler un petit peu d'immobilier, c'est intéressant aussi parce que ça a été un sujet qui a pas été beaucoup abordé dans la présidentielle. Il faut savoir que les prix de l'immobilier ont tellement monté que les banques sont obligées de proposer des prêts sur des durées incroyablement longues. On en avait parlé qu'une banque espagnole a proposé en France, à travers un courtier qui sert de relais à cette banque, un prêt sur 50 ans. Donc vous imaginez où on en est aujourd'hui. Là, l'info d'aujourd'hui, c'est que deux banques françaises et bientôt une troisième commencent à proposer des prêts sur 40 ans, ce qui est énorme. Alors ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça ne déclenche aucune réaction d'aucun candidat et d'aucun parti, hormis bien sûr l'extrême gauche qui avait déjà réagi autrefois sur le problème du logement, mais ni le PS ni l'UMP ne réagissent sur ce genre d'infos. On sait que l'UMP est plutôt pour, puisque ça fait gagner de l'argent à son électorat, qui est plutôt un électorat possédant de la pierre. Et quant au PS, ils ont abandonné depuis longtemps l'idée que le logement soit accessible à tous et à toutes pour rien ou pas grand-chose. Donc on l'a vu à Lyon, hein, puisque les mairies ne luttent pas contre la spéculation immobilière, même notamment les mairies... PS, on peut le voir sur les pentes de la Croix-Rousse, où il y a 2 ans, on battait le record mondial d'augmentation du prix de l'immobilier. tout ça dans une mairie de gauche. Alors bien sûr, il nous explique que c'est les règles du marché et que c'est le marché qui fait les prix. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il faut casser le marché, mais ça serait une gauche anticapitaliste et c'est pas le PS. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc voilà, en tout cas, cette info pour rappeler que si les prêts immobiliers augmentent, si le coût de l'immobilier augmente, aucun des deux candidats qui se présentent ne fera quelque chose contre. Donc vous allez vous faire avoir. Voilà. Et puis, juste avant de donner la parole à mon collègue, j'ai une info positive et sympathique. Aujourd'hui, on en avait parlé à l'antenne de Radio Canu, une famille, la famille Rabat, qui avait été expulsée il y a 4 mois vers le Kosovo. Donc, ils avaient été expulsés par Monsieur Nicolas S., que vous connaissez tous. Une expulsion qui coûte cher. Il faut savoir que leur expulsion a coûté à peu près 100 000 euros, puisqu'il a fallu affecter un avion privé, 11 policiers, un médecin. Donc ils ont expulsé la famille, c'est-à-dire la maman et les enfants et le papa. Donc ils sont arrivés au Kosovo. Forcément, leur vie est en danger au Kosovo, parce qu'il faut savoir que le père de famille a refusé de rentrer dans l'armée de libération du Kosovo, l'UCK, et donc c'est très mal vu au Kosovo. Donc ils se sont cachés pendant quelques mois et ils sont de retour dans notre belle région Rhône-Alpes. Donc voilà, bien sûr on ne sait pas où, et même si on savait on ne le dirait pas, mais en tout cas ça fait plaisir. Voilà, Nicolas Sarkozy a fait perdre 100 000 francs à notre pays, tout ça pour que ces gens puissent enfin revenir. Il faut savoir quand même que 2 des enfants sont nés en France, ils parlent français, toute leur vie est ici, et que les parents n'ont pas d'autre choix que de venir vivre ailleurs qu'au Kosovo, puisqu'ils sont leur vie est en danger là-bas. Donc voilà. Je vais donner la parole à mon collègue Julien, qui est arrivé en pédalant dans ce Canu Info.
On peut fumer ce soir à la radio, c'est super. Bon, moi j'ai une plutôt mauvaise nouvelle, il y a eu encore un suicide dans l'automobile jeudi dernier. Donc un ouvrier de PSA qui s'est pendu, 51 ans, et contrairement à tout ce qui s'était passé à Renault, à EDF... et aussi à Sodexo Trucks, avec le suicide d'Isabelle Béal, c'est un ouvrier, donc c'est pas une personne de l'encadrement. La direction refuse encore d'assumer ses responsabilités, puisqu'elle dit « tous les éléments objectifs font ressortir qu'il était satisfait de sa mission et qu'il était apprécié de sa hiérarchie et qu'il avait bénéficié d'une augmentation et d'une promotion en 2005-2006 ». On peut donc dans le même temps, PSA laisse sous-entendre qu'ils vont licencier, enfin ils vont faire un plan social de 10 000 personnes. Donc voilà. Et on peut encore noter, disons, la frilosité des syndicats. Et je pense que aussi ça remet beaucoup en cause, sans vouloir être polémique, les syndicats, puisque quelque part le collectif, il est plus là et les gens ils osent plus parler. Et ils passent à des solutions radicales sans en avoir parlé à qui que ce soit. Voilà. Et quand même, PSA, Renault, EDF ont annoncé qu'ils allaient lancer des plans d'action. Alors dans un langage patronal, ça veut dire qu'ils vont donner du boulot à quelqu'un pour soi-disant régler le problème. Et pourquoi ils vont lancer des plans d'action ? Parce que j'ai réussi à tomber sur le rapport de l'OMS qui s'appelle « Organisation du travail et stress ». Et l'Organisation mondiale de la santé propose de faire des plans d'action. Donc, propose de rien faire, en gros. Et par contre, plus grave, elle avalise le terme de pression. Elle dit que c'est normal d'avoir la pression dans son travail. Et donc, après, la limite entre pression et stress et harcèlement moral, elle se fait à l'appréciation de chacun. Et puis, ils disent que le meilleur moyen de savoir si vos employés sont stressés, c'est de leur demander. Voilà. C'était tout pour, malheureusement, un suicide de plus dans le monde du travail.
Alors moi je vais revenir sur autre chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le 5 juin 2005, donc il y a presque 2 ans, ACT UP se sont incrustés dans une église très célèbre à Paris qui s'appelle Notre-Dame. Ils sont rentrés, ils ont fait un faux mariage, ils ont marié deux jeunes femmes. Et tout ça pour dénoncer l'attitude de Benoît XVI, de l'Église, sur l'homophobie, sur le problème du sida, enfin des choses comme ça. Et forcément, l'Église avait très très mal pris les choses, on ne sait pas pourquoi. Et ils avaient envoyé les forces de l'ordre, qui avaient donc arrêté les militants d'ACT UP. Et le procès est arrivé, et contrairement à tout ce qu'on aurait pu croire, parce que c'était quand même un truc un peu symbolique, qui était plus... plus drôle qu'autre chose, eh bien, ils ont quand même été condamnés. Donc la justice a décidé qu'on n'avait pas le droit de faire ça dans une église parce que ça détériorait la liberté de religion qu'ont les chrétiens ou les catholiques dans ce cadre-là. Donc voilà. Et ils ont été condamnés, vous allez me dire, pas grand-chose, à 1 euro symbolique, mais ce qui est important, c'est la condamnation elle-même. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas le droit de faire quelque chose de symbolique sur un pape homophobe, sur une église majoritairement homophobe. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle, mais la justice collabore finalement toujours avec qui on sait pas d'ailleurs, finalement, je sais pas quoi dire.
Dans les mêmes genres d'infos, mais international, et comme j'étais pas là pour la partie internationale, donc je me permets de revenir sur l'international, avec une plutôt bonne nouvelle à ce propos-là, puisque la ville de Mexico avait déjà légalisé par des sortes de pax le mariage homosexuel. Elle vient aussi de libéraliser l'avortement. Donc à l'Assemblée, le Parlement de Mexico, puisque le Mexique, c'est comme les États-Unis, c'est divisé en différents États. Donc le Parlement de Mexico, avec 46 voix pour et 19 voix contre, a légalisé l'avortement jusqu'à la 12e semaine. Et donc le président Calderón, évidemment, est contre. Le fameux président qui avait soutenu la répression à Oaxaca. Et donc on peut noter la réaction des cathos mexicains. Donc, dans un communiqué intitulé « Pour la défense des plus petits », on a eu une asso tristement célèbre sur Lyon qui a à peu près le même nom, les évêques mexicains qui ont reçu un courrier de soutien de Benoît XVI ont rappelé qu'aucune motivation, aussi légitime qu'elle paraisse, ne justifie l'avortement directement provoqué. Et dans le même genre de déclaration un peu bizarre, le représentant du PAN, donc le Parti d'Action Nationale, qui est donc le parti de Calderón, le président, a dit que libéraliser l'avortement mettait en cause la démocratie mexicaine. Voilà. Donc je te laisse continuer, revenir sur du national.
Qu'est-ce que je peux dire après ça? Oui, juste pour rappeler qu'en ce moment, suite à la fin du premier tour et à l'attente du deuxième tour de l'élection présidentielle, du cirque présidentiel, des manifestations sont organisées un peu partout en France et notamment à Lyon contre Nicolas Sarkozy. Alors par exemple aujourd'hui à 20h il y a une manifestation au Terreau contre Nicolas Sarkozy. Et moi je voudrais un peu dénoncer ce qui est en train de se passer, cette espèce de revival 2002, puisqu'on nous essaye de faire, notamment dans les milieux de gauche, dire que attention, Sarkozy c'est un monstre. Alors ça on le sait déjà, donc ça sert à rien de nous le dire. Et deux, il faut voter contre lui, c'est-à-dire pro-royal. Donc, dans ce cadre-là, est organisée une manif anti-Sarkozy le mardi 1er mai, 17h30, place Bellecour. Alors, c'est inadmissible parce que d'abord, c'est une manif syndicale dont l'objectif est de défendre le travailleur et pas du tout de faire des manifs partisanes pro-royal, puisque forcément, quand on manifeste contre Nicolas Sarkozy, ça veut dire qu'on manifeste pour Ségolène Royal. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats et que personne n'est d'accord sur est-ce qu'il vaut mieux avoir Sarko ou Ségolène. En tout cas, juste pour vous rappeler quand même quelques petits faits. La défense des sans-papiers par le PS ces deux dernières années est une défense politique, hein, de politique politicienne, puisque sous Jospin, les sans-papiers en ont pris aussi plein la gueule, rappelons-le, et il y avait assez peu d'opposition, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'opposition globalement quand la gauche fait les choses aussi dégueulasses soient-elles que quand c'est la droite. Ensuite, si on prend d'autres exemples, les privatisations, Lionel Jospin avait beaucoup, beaucoup privatisé, hein, l'ouverture de capital, l'ouverture du marché de l'électricité, c'est Lionel Jospin, enfin, etc., etc. On pourrait citer des tonnes de trucs sur l'agriculture productiviste, pour ceux qui sont un peu écolo, ils savent très bien que le PS est toujours pro-agriculture productiviste. Donc voilà, alors, chacun fait ce qu'il veut naturellement, mais il faut quand même rappeler que la démocratie, c'est pas voter contre, c'est voter pour. Donc quand on vote pour un candidat, eh ben, on vote pour ses idées et pour ce qu'elles vont faire derrière. Donc l'important, c'est d'assumer ce qu'on fait. Et j'aimerais bien que tout le monde assume, puisque moi, j'ai déjà assumé des choix horribles dans le cadre d'élections. Et j'aimerais bien que tout le monde aille jusqu'au bout, puisque je ne pense pas que la meilleure idée soit de voter pour Ségolène. Et peut-être que c'est peut-être dans la rue que ça se passera et que que les choses doivent se faire. Enfin voilà, je suis un peu brouillon là parce que j'ai
pour
pas.
Pour nuancer un tout petit peu ce propos, il y a quand même eu 11 millions de voix pour Sarkozy, donc tout le monde n'est quand même pas au courant que c'est un dangereux fasciste. Voilà, c'est dit.
C'est dit. On va faire une toute petite pause musicale. Vous allez voir qu'on est quand même très anti-sarco, parce que je vous propose un morceau de raga qui n'est pas forcément le meilleur morceau du monde, mais c'est un morceau anti-sarco, donc ça fait quand même un peu plaisir.
C'est contre toi cette chanson, toi petit homme qui sans raison, avec tes discours et tes lois, nous a donné tous un peu froid. Toi qui nous a repris l'espoir, que nous avions de la mémoire, tous les gens bien et mal intentionnés vont te claquer la porte au nez. Ils parlent, les personnes s'étonnent. Moi ça me fait mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Un jour c'est décidé, dans un dîner d'élite, que discuter ensemble deviendrait un délit. À ceux qui n'ont pas la chance d'être bien logés à Neuilly, sortez de la tour et des uniformes sont là pour vous accueillir. La tentation est rapide et efficace. Y'a des caméras dans la rue mais sans les dédicaces. Il a coupé les crédits des assos dans les quartiers, mais c'est du qu'éducateur et CRS n'ont pas le même métier. C'est on m'a dit partout, j'ai lu, entendu, la jeunesse est vivante, ouvrez les yeux, écoutez, ces idées ne sont pas récentes, n'ont pas été assez claires, jamais d'une politique à la Blair. Et demain qu'on le chasse vite ici avant que nos enfants pleurent. Ils parlent, les personnes s'étonnent. Moi ça me fait mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Ils parlent, les personnes s'étonnent. Moi ça me fait mal d'entendre cet homme. Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne. Man, je la connais par cœur, laisse-moi déchirer ton programme. Et dis-moi que fait la police. Humiliation, bavure, bien trop longue est la liste. Mais dis-moi que fait le ministre. Provocation, séduction de l'électorat, le pénis. Mais dis-moi que fait la police. Humiliation, bavure, bien trop longue est la liste. Mais dis-moi que fait le ministre. Provocation, séduction de l'électorat, le pénis. Mes policiers, CRS, ne font plus régner l'ordre, mais blessent. Dis-moi, est-ce normal que la vue d'un uniforme stresse? 2 grammes de weed en poche, et voilà qu'il t'emmène au poste. Et le ministre ferme les yeux sur les gardes à vue match de boxe. Il paraît que ça rassure, moi ça me fait peur. Le modèle américain, je vois pas l'apport, mais je vois ce qu'on y perd. On est comme des lions qu'ils voudraient mettre dans des cages, on est des millions à vouloir faire passer ce message. Il est dangereux, malgré ce que disent les médias, elle est dangereuse. Sa politique de l'immédiat, il est dangereux. Il nous mitonne, il nous endort, et on connaît les dégâts qu'il a causés pour lutter, que faut-il encore. Il parle, les personnes.
Ah, c'est les magies de la technique, hein, comme quoi on se déplace et on n'emmène pas le meilleur matériel du monde, hein. C'est Radio Canu, un peu tout ça, ça fait partie du truc. Juste pour revenir sur la presse qui ne comprend pas toujours tout sur ce que peut être une radio différente, un média différent. Juste pour revenir, tout à l'heure dans la soirée, on parlera des autres médias alternatifs. J'ai le titre d'un journal dont je tairai le nom, parce que c'était bon, bref. Et voilà, ils nous souhaitent bon anniversaire et ils disent joyeux anniversaire, comme si on était une radio anarchiste. Alors c'est toujours assez désagréable d'être qualifié politiquement, même si être qualifié d'anarchiste, c'est loin d'être une insulte, bien au contraire. Mais voilà, c'est pour montrer tout l'écart qu'il peut y avoir entre la presse classique dite dominante et nous, puisqu'ils n'arrivent pas à nous qualifier, donc ils ont besoin de sortir un mot. Alors finalement, on est juste un média. On n'a pas besoin d'être libertaire, d'être anarchiste, on est un média et on est juste beaucoup plus libre qu'eux, mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils ne comprennent pas. On va faire un petit point écolo aujourd'hui. On a une info intéressante. Si vous suivez un petit peu l'actualité, depuis quelques temps, on parle beaucoup des biocarburants. Alors un biocarburant, c'est pas un carburant biologique, enfin bio dans le sens de respect de l'environnement. C'est un carburant qui est fait à partir de la nature. Donc ils sont pas du tout bio, ils sont issus de l'agriculture productiviste et ils polluent les rivières et les terres comme le reste de l'agriculture productiviste. Mais bon, c'est présenté comme une des solutions à l'après-pétrole et puis aussi au problème du réchauffement climatique, puisque le CO2 qui est émis par la combustion de ces biocarburants, c'est un CO2 qui avait déjà été capté par la plante. Donc en bref, on n'en émet pas plus. Sauf que il y a une étude qui vient de paraître, une étude américaine qui est parue dans une revue qui s'appelle Environmental Science and Technology. sur le carburant le plus utilisé, le biocarburant le plus utilisé, qui s'appelle l'E85. L'E85, c'est un mélange de 85% d'éthanol, donc qui, lui, est issu de l'agriculture, et 15% d'essence classique. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que ce carburant-là, le fait qu'il y ait plus d'oxygène dans ses composants, il améliorerait la combustion et ça réduirait la quantité de particules, notamment de monoxyde de carbone et de polluants. Et ben, d'après ce chercheur, il a étudié la combustion donc de ce E85, et lui, il a démontré l'inverse. Il a démontré que l'utilisation de ces biocarburants augmentait certains polluants, et d'après lui, ça augmenterait la population, et notamment l'asthme, de 9% rien qu'à Los Angeles, et de 4% pour l'ensemble des États-Unis. Donc tous ceux qui présentent la solution alternative des biocarburants oublient d'étudier ces biocarburants avant d'en parler. Et donc les études, et c'est pas la première, mais cette étude démontre que ces biocarburants émettent plus de certains polluants et sont donc plus dangereux finalement à la santé que l'essence traditionnelle. Donc c'est pas rassurant. Ensuite, il y a eu d'autres études. Hein. En 2005, il y avait déjà une étude sur la transformation du maïs en biocarburant. Ils avaient fait un bilan énergétique et à la fin, pour un litre de biocarburant tiré du maïs, il avait fallu brûler plus d'un litre de pétrole pour le fabriquer. Donc finalement, c'était pas du tout rentable. Mais voilà, c'est quand même vendu comme étant des biocarburants. Donc voilà pour cette news. Et puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui dans ce Canu Info. Je vais faire un petit agenda juste avant de passer la main à l'émission suivante. Donc j'ai dû parler beaucoup plus vite que d'habitude, hein, parce que c'est peut-être le stress du public. On va rappeler qu'il se passe pas mal de choses dans notre ville de Lyon. Alors d'abord, ceux qui sont encore derrière leur poste de radio et qui ont envie de sortir de chez eux puisqu'il pleut pas encore, ils peuvent venir à de l'autre côté du pont puisque nous sommes en direct de ce bar sympathique du 7e. Donc on est là ce soir jusqu'à point d'heure. Demain, qu'est-ce qui se passe ? Donc demain, on est le 27 avril, il se passe qu'il y a aussi demain une soirée organisée par Radio Canu. La soirée de demain, c'est à Grande Zéro. Alors pour ceux qui connaissent pas le nom de Grande Zéro, qui est un nom un peu bizarroïde, c'est le nouveau nom, c'est un nom qui dit que c'est au Rai Théâtre en fait. Donc demain soir, il y a une soirée concert. Si mes collègues me donnent le programme, je vais pouvoir dire le programme sans faire d'erreur. Donc dans la soirée concert demain, il y a les Robotnica. C'est une sorte d'électro-punk qui pète, ça, qui est très dansant. Juste avant, il y a les Human Z qui font de l'électro-dub. Et avant, il y a de l'hypno-ciné-rock, c'est Doug. Donc c'est une sorte de musique avec plein de projections. Donc ça risque d'être sympa. C'est 3€, donc au Rai Théâtre demain. Samedi. Qu'est-ce qui se passe samedi ? Est-ce que vous savez quoi faire samedi ? Alors samedi après-midi, si vous aimez le vélo, il y a la Vélorution d'avril. Départ 15h devant l'Opéra, donc entre l'Opéra et l'Hôtel de Ville. Donc la Vélorution, c'est un groupement informel, ce qu'on appelle une masse critique de personnes. Si le groupe est assez important, ce qui est le cas depuis un an, puisque ça fait un an que ces Vélorutions ont lieu, eh ben, on peut aller prendre la place de la voiture dans les rues et se montrer. Donc voilà ce que vous pouvez faire samedi à 15h. Si vous préférez entendre parler des Black Panthers parce que vous vous intéressez à ce qui a pu se passer aux États-Unis il y a quelques années, eh ben il y a une réunion publique organisée par le mouvement des indigènes de la République. Ça se trouve à la librairie Terre des Livres à 15h. Et puis samedi, le soir, vous avez deux types de concerts possibles. Le concert de Sabayo à la Maison des Passages à 20h30 et à nouveau des concerts organisés par Radio Canu dans le cadre des 30 ans de Radio Canu. Donc là, samedi soir, c'est une programmation un petit peu variée puisque vous pourrez retrouver de la poésie sonore avec Anne-James Chaton et Andy Moore. Ensuite, les Speed and Archer, un groupe de Lyon qui fait du dark hip-hop. Et puis deux groupes de punk, les Pedestrians et le groupe La Fraction qui fait une tournée d'adieu. Donc voilà, pour samedi, pour dimanche, je suis parti pour faire tout le programme de Radio Canu, donc je vais le faire. Hein. Dimanche, c'est la soirée, l'après-midi, la journée lutte en Amérique latine. C'est de 13h à 22h à la Marmite Colbert. C'est une petite salle qui est 7 rue d'Hydro dans le premier arrondissement à côté de la place Colbert. Et c'est entrée libre, hein, tout est gratuit ce jour-là. De 13 à 22h, sauf le repas du soir, si vous voulez manger, et ben, il y aura de quoi manger. Lundi soir, le Radio Canu organise une soirée cinéma avec projection de deux documentaires autour de la désurbanisation, c'est-à-dire la déshumanisation des villes, la déshumanisation organisée des villes. Donc il y aura un documentaire de Yael Biton qui s'appelle Not for Sale sur les mutations urbaines de New York. Et il y a le carnet d'un arpenteur, donc c'est le parcours d'un habitant des Minguettes. donc à Vénissieux, et donc il filme, il raconte son histoire et l'histoire du quartier en même temps. Donc ça, c'est lundi soir, ça coûtera 2 euros. Donc c'est au Cinéma Opéra, rue Joseph Serlin, sur la Presqu'île. Et puis mardi, il fait beau, et ce qui est a priori sera le cas, réchauffement climatique, il faut qu'il y ait un intérêt quand même, c'est qu'on peut sortir dans la rue même au mois d'avril. Mardi, on sera le 1er mai, donc il y a la manif syndicale le matin, comme d'habitude, et à midi, il y a un repas de quartier Place Satenay, qu'organise Radio Canut depuis 7 ans maintenant. Donc ce repas de quartier marche sur le même principe que les autres, c'est-à-dire que chacun amène un plat à boire. Il y aura des tables, il y aura des verres, il y aura des assiettes. On pose et on partage, on discute, on fait connaissance. Et puis il y aura aussi sûrement un peu de musique, parce qu'il y a toujours des musiciens qui descendent. Enfin voilà comment ça se passe, en gros, un repas de quartier façon Radio Canu et puis façon tout court. Donc voilà pour cette fête des 30 ans de Radio Canu. Donc on a fait un Canu Info un petit peu plus court que d'habitude, voilà, pour cause d'émissions exceptionnelles. On va écouter un petit peu de musique pour faire la transition avec l'émission qui suit, qui s'appelle la bande à Spartacus, nos amis syndicalistes.